Chapitre 20. Édouard vit immédiatement qu'Albert était déçu. Il rentrait morose de sa sortie. Avec sa bonne amie, les choses n'avaient pas tourné comme prévu, malgré les belles chaussures neuves. Ou à cause d'elle, pensa Édouard, qui savait ce que c'est que la véritable élégance et qui n'avait pas donné cher des chances d'Albert en découvrant ce qu'il portait aux pieds. En arrivant, Albert avait détourné les yeux, comme un timide. C'était inhabituel. Ordinairement, au contraire, il le fixait intensément. « Ça va ?» C'était un regard presque excessif qui disait qu'il ne craignait pas de regarder son camarade en face lorsqu'il ne portait pas de masque, comme ce soir-là. Au lieu de quoi, Albert rangea ses chaussures dans leur boîte, comme un trésor qu'on cache, mais sans joie. Le trésor était décevant, il s'en voulait d'avoir cédé à cette envie. Quelle dépense! Avec tout ce qu'ils avaient à payer, tout ça pour faire le beau chez les Péricourt. Même la petite bonne s'était marrée. Il ne bougeait pas, Édouard ne voyait que son dos, immobile, accablé. C'est ce qui le décida à se lancer. Il s'était pourtant promis de ne parler de rien tant que le projet ne serait pas entièrement bouclé. Il en était loin. De plus, il n'était pas encore tout à fait content de ce qu'il avait produit et Albert n'avait pas un moral suffisant pour aborder les choses sérieuses. Autant de raisons d'en rester à sa décision initiale de se livrer le plus tard possible. S'il se résolut, malgré tout, à lâcher le morceau, ce fut à cause de la tristesse de son camarade. En réalité, cet argument ne faisait que masquer sa véritable raison. Il avait hâte. Depuis l'après-midi où il avait achevé le dessin de l'enfant de profil, il criait d'impatience. Alors, tant pis pour les bonnes résolutions. « Au moins, j'ai bien dîné, » dit Albert sans se relever. Il se moucha. Il ne voulait pas se retourner, se donner en spectacle. Édouard vécut là un moment intense, un moment de victoire. Pas sur Albert, non, mais pour la première fois depuis la faillite de sa vie, la victoire de se sentir fort, d'imaginer que l'avenir allait dépendre de lui. Albert eut beau se lever en baissant les yeux, « Je vais au charbon !» Édouard l'aurait serré contre lui, il l'aurait embrassé s'il avait eu des lèvres. Albert mettait toujours ses gros chaussons en tissu écossais pour descendre. « Je reviens », ajouta-t-il, comme si la précision était nécessaire. C'est ainsi dans les vieux couples, on se dit des choses par habitude sans se rendre compte de la portée qu'elles auraient si on les écoutait vraiment. Dès qu'Albert est dans l'escalier, Édouard saute sur la chaise, soulève la trappe, sort le sac, replace la chaise, les poussettes rapidement, s'installe dans l'ottomane, se penche, sort de dessous le divan son nouveau masque, l'enfile et attend son cahier de dessin sur les genoux. Il est prêt trop tôt et le temps lui semble long à guetter le bruit des pas d'Albert dans l'escalier. Très lourd, à cause du seau rempli de charbon, c'est le grand modèle. Ça pèse sacrément, ce truc-là. Albert pousse enfin la porte. Quand il lève les yeux, il est saisi, stupéfié. Il lâche le seau qui choit avec un gros bruit métallique. Il tâche de se retenir, tend le bras, ne trouve rien. Il a la bouche grande ouverte pour ne pas défaillir. Ses jambes n'en peuvent plus. Il tombe enfin à genoux sur le parquet, bouleversé. Le masque que porte Édouard, presque grandeur nature, c'est sa tête de cheval. Il l'a sculpté dans du papier mâché durci. Tout y est. La couleur brune avec les marbrures sombres, la texture du pelage noirci faite d'une peluche marron très douce au toucher, les joues décharnées et tombantes, le long chanfrein anguleux menant aux naseaux, ouverts comme des fosses, avec les deux grosses lèvres duveteuses et entr'ouvertes, la ressemblance est hallucinante. Lorsqu'Édouard ferme les yeux, c'est le cheval lui-même qui ferme les yeux. C'est lui, à Albert n'avait jamais fait le rapprochement entre Édouard et le cheval. Il est ému aux larmes, comme s'il retrouvait un ami d'enfance, un frère. Oh, ça alors ! Il rit et pleure en même temps. « Ça alors » répète-t-il. Il ne se relève pas, reste à genoux, regarde son cheval. « Ça alors !» Cet idiot, lui-même s'en rend compte, il a envie de l'embrasser en plein sur sa grosse bouche veloutée. Il se contente de s'approcher, de tendre l'index, de toucher ses lèvres. Édouard reconnaît le même geste que celui de Louise, naguère. L'émotion le submerge. Tout ce qu'il y aurait à dire. Les deux hommes restent silencieux, chacun dans son univers. Albert caresse la tête du cheval. Édouard reçoit la caresse. « Je ne saurai jamais comment il s'appelait, » dit Albert. « Même les grandes joies vous laissent un peu de regret. Il y a un fond de manque dans tout ce qu'on vit. » Puis, comme s'il venait seulement d'apparaître sur les genoux d'Édouard, Albert découvre le carnet à dessin. « Oh, tu t'y es remis !» Un cri du cœur. « Qu'est-ce que ça me fait plaisir ! Oh, tu peux pas savoir !» Il en rit tout seul, comme s'il jouissait de voir enfin ses efforts récompensés. Il désigne le masque. « Ça aussi, hein, t'imagines ! Oh, oh, quelle soirée !» Avec un air gourmand, il montre le cahier. « Et je peux voir ?» Il s'assoit à côté d'Édouard, qui l'ouvre lentement. Une vraie cérémonie. Dès les premières planches, Albert est déçu. Impossible de le cacher. Il balbutie « Ah oui ? Ah ben, très bien, très bien !» pour occuper le temps parce que, en fait, il ne sait pas quoi dire qui ne sonnerait pas faux. Car enfin, qu'est-ce que c'est ? Sur la grande feuille, il y a un soldat et c'est très laid. Albert referme le cahier et désigne la couverture. « Dis-moi !» fait-il d'un air épaté. « T'as trouvé ça où ?» La diversion vaut ce qu'elle vaut, c'est Louise. Forcément, trouver des cahiers pour elle doit être un jeu d'enfant. Ensuite, il faut regarder de nouveau les dessins, que dire ? Alors, cette fois, Albert opine de la tête. Il s'est arrêté sur la seconde planche, le crayon très fin d'une statue en pierre posée sur une stèle. On la voit de face, sur le côté gauche de la page, et de profil, sur le côté droit. Elle représente un poilu, debout, tout équipé avec son casque, son fusil en bandoulière. Il avance, il est en train de partir, la tête haute, le regard vers le lointain. Sa main traîne un peu. À l'extrémité de ses doigts encore tendus, celle d'une femme, elle est derrière lui, en tablier ou en blouse, et porte un enfant dans ses bras. Elle pleure, ils sont jeunes tous les deux. Il y a le titre au-dessus du dessin, « Départ pour le combat ». Qu'est-ce que c'est bien dessiné ! Voilà tout ce qu'il trouve à dire. Édouard ne s'en offusque pas. Il se recule, retire son masque et le pose par terre devant eux. Ainsi, le cheval semble sortir la tête du plancher et tendre à Albert sa grosse bouche velue et ourlée. Édouard rappelle l'attention d'Albert en tournant doucement la page suivante. « À l'attaque, ça s'appelle. » Cette fois, ce sont trois soldats. Ils répondent parfaitement à l'injonction du titre. Ils avancent groupés, l'un tient haut son fusil prolongé par une baïonnette, le deuxième, près de lui, le bras tendu, s'apprête à lancer une grenade, le troisième, légèrement en retrait, vient d'être atteint d'une balle ou d'un éclat d'obus. Il est cambré, ses genoux cèdent sous lui, il va tomber à la renverse. Albert tourne les pages, debout les morts, puis un poilu mourant en défendant le drapeau et camarades de combat. Ce sont des statues ? C'est une question, d'un ton hésitant, c'est que Albert s'attendait à tout, mais pas à ça. Édouard approuve, les yeux sur ses planches, oui, des statues. L'air content. Bien, bah, semble dire Albert, rien d'autre. Le reste est bloqué dans sa poitrine. Il se souvient parfaitement du carnet de croquis d'Édouard trouvé dans ses affaires. rempli de scènes saisies à la hâte, au crayon bleu, il l'avait envoyé à la famille avec la lettre annonçant son décès. C'était les mêmes situations qu'aujourd'hui, somme toute, des soldats à la guerre, mais il y avait, dans ceux d'autrefois, une telle vérité, tant d'authenticité. En art, Albert n'y connaît rien. Il y a seulement ce qui le touche et ce qui ne le touche pas. Ce qu'il voit là est très bien rendu, très travaillé, avec beaucoup de soin, mais il cherche le mot, c'est figé. Et enfin, il trouve, ça n'a rien de vrai. Voilà. Lui qui a connu tout cela, qui a été un de ces soldats, il sait que ces images-là sont celles que se sont forgées ceux qui n'y sont pas allés. C'est généreux, c'est sûr, destiné à émouvoir, mais c'est un peu trop démonstratif. Lui est un homme pudique, et ici, le trait est sans cesse outré. On dirait que c'est dessiné avec des adjectifs. Il avance, tourne les pages. Voici une France pleurant ses héros. Une jeune fille éplorée tient dans ses bras un soldat mort, puis un orphelin méditant sur le sacrifice. Un jeune garçon est assis, la joue posée dans sa paume. À côté de lui, ce doit être le rêve qu'il fait ou ses pensées, il y a un soldat en train de crever, allongé, qui tend la main vers l'enfant. C'est simple, mais pour celui qui n'y connaît rien, c'est d'une laideur totale. Il faut le voir pour le croire. Voilà un coq foulant un casque boche. Mon Dieu, il est dressé sur ses ergots, le bec pointé vers le ciel avec des plumes et des plumes. Albert n'aime pas du tout, au point qu'il en a la voix coupée. Il risque un œil vers Édouard qui, lui, couve ses dessins d'un regard protecteur, comme on fait pour ses enfants dont on est fier même quand ils sont moches, on s'en rend pas compte. La tristesse d'Albert, même s'il ne le comprend pas à cet instant précis, c'est de constater que le pauvre Édouard a tout perdu dans cette guerre, jusqu'à son talent. « Et, commence-t-il, car enfin, il faut bien dire quelque chose, et pourquoi des statues ?» Édouard va fouiller à la fin du cahier, il en tire des coupures de presse, il en exhibe une, il a entouré des lignes au crayon gras. Ici, comme partout, les villes, les villages, les écoles, les gares même, tout le monde veut son monument aux morts. La coupure provient de l'Est républicain. Il y en a d'autres. Albert a déjà ouvert ce dossier. Il n'en avait pas saisi la logique, les listes de morts d'un même village, d'une même corporation, une célébration ici, une prise d'armes, une souscription ailleurs, tout revenait à cette idée de monument commémoratif. « D'accord, » répond-il, quoiqu'il ne comprenne pas réellement de quoi il s'agit. Édouard pointe alors du doigt un calcul qu'il a fait, dans un coin de page, 30 000 monuments multipliés par 10 000 francs égale 300 millions de francs. Cette fois, Albert saisit mieux parce que c'est beaucoup d'argent. C'est même une fortune. Il ne parvient pas à imaginer ce qu'on peut acheter avec une somme pareille. Son imagination bute sur le chiffre, comme une abeille sur la vitre. Édouard prend des mains d'Albert le cahier et lui montre la dernière page. C'est un encadré. Le souvenir patriotique, stèles, monuments et statues à la gloire de nos héros et de la France victorieuse, catalogue. Tu veux vendre des monuments aux morts ? Ouais, c'est ça. Édouard est content de sa trouvaille. Il se tape sur les cuisses avec ce bruit de gorge, ce roucoulement. On ne sait pas d'où ça sort ni comment. Ça ne ressemble à rien, c'est seulement désagréable à entendre. Albert comprend mal qu'on puisse avoir envie de fabriquer des monuments. En revanche, le chiffre de 300 millions de francs commence à se frayer un chemin dans son imagination. Cela veut dire maison, comme celle de M. Péricourt, par exemple, limousine et même palace. Il rougit, il vient de penser femme. La petite bonne au sourire ravageur est passée furtivement devant ses yeux. C'est instinctif, hein, quand on a de l'argent, on veut toujours des femmes pour aller avec. Il lit quelques lignes qui suivent, C'est de la réclame écrite en petites majuscules, tracée avec tellement de soin qu'on dirait de l'imprimerie. Et vous ressentez douloureusement le besoin de perpétuer le souvenir des enfants de votre ville, de votre village, qui ont fait de leur poitrine un rempart vivant contre l'envahisseur. Bah, tout ça est bien beau, dit Albert. Je trouve même que c'est une sacrément bonne idée. Il comprend mieux pourquoi les dessins l'ont tant déçu. Ils ne sont pas faits pour représenter une sensibilité, mais pour exprimer un sentiment collectif, pour plaire à un vaste public qui a besoin d'émotions, qui veut de l'héroïsme. Plus loin, il lit. À ériger un monument qui soit digne de votre commune et des héros que vous voulez donner en exemple aux générations à venir. Les modèles présentés peuvent être livrés, selon les ressources dont vous disposez, en marbre, en granit, en bronze, en pierre et granit silicaté ou en galvanobronze. C'est quand même compliqué, hein, ton affaire, reprend Albert. D'abord, parce qu'il suffit pas de dessiner des monuments pour en vendre. Hein. Et ensuite, quand on les a vendus, faut les fabriquer. Faut de l'argent, du personnel, une usine, des matières premières. Il en est ébahi en prenant conscience de ce que ça représente de créer un atelier de fonderie. Après, les monuments, il faut les transporter, les monter sur place. Il faut beaucoup d'argent. On en revient toujours là, l'argent. Même les plus industrieux ne peuvent se contenter de leur énergie. Albert sourit gentiment et tapote le genou de son camarade. Bon, allez, écoute, on va y réfléchir. Hein. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de vouloir te remettre au travail. Bon, c'est peut-être pas de ce côté-là qu'il faut te tourner, hein, les monuments, c'est compliqué. Mais on s'en fiche. L'important, c'est que tu aies retrouvé du goût aux choses, pas ? Non. Édouard serre le poing et brosse l'air comme s'il astiquait des souliers. Le message est clair. Non, 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 faire vite. Bah, faire vite, dit Albert. T'en as de drôle, toi. Sur une autre page du grand cahier, Édouard écrit un chiffre à la va-vite. 300 monuments. Il raye 300 et écrit 400. Quel enthousiasme! Il ajoute 400 multiplié par 7000 francs égale 3 millions. Il est devenu complètement dingue, pas de doute. Il ne lui suffit pas de vouloir monter un projet impossible, il faudrait encore le faire tout de suite, d'urgence. Bon, 3 millions sur le principe, Albert n'a évidemment rien contre, hein, serait même plutôt pour même. Mais manifestement, Édouard n'a plus les pieds sur terre. Il a fait 3 dessins et dans sa tête, on est déjà passé au stade industriel. Albert prend sa respiration, comme s'il prenait son élan, et il tâche de parler calmement. « Écoute, mon grand, je crois que c'est pas raisonnable. Vouloir fabriquer 400 monuments, je sais pas si tu imagines vraiment ce que c'est. Oh, oh, oh !» Quand Édouard fait ce bruit-là, c'est que c'est important. Il l'a fait une ou deux fois depuis qu'ils se connaissent, c'est impératif, sans colère, mais il veut être entendu. Il saisit son crayon. « On ne les fabrique pas, » écrit-il, « nous, on les vend. »« Bah oui, » expose Albert, « mais enfin, merde, quand on les aura vendus, il faudra bien les fabriquer quand même. » Édouard approche son visage très près de celui d'Albert. Il lui tient la tête entre les mains, comme s'il voulait l'embrasser sur la bouche. Il fait non, ses yeux rient. Il reprend son crayon. On les vend seulement. Les choses les plus attendues arrivent souvent par surprise. C'est ce qui va se passer pour Albert. Édouard, fou de joie, répond soudain à la question lancinante que son camarade se pose depuis le premier jour. Il se met à rire, oui, à rire pour la première fois. Et c'est un rire presque normal, un rire de gorge, assez féminin, haut perché, un vrai rire avec des trémolos, des vibratos. Albert en a le souffle coupé, la bouche entrouverte. Il baisse les yeux sur la feuille de papier, vers les derniers mots écrits par Édouard. On les vend seulement, on ne les fabrique pas. On touche l'argent, c'est tout. « Enfin !» demande Albert. Il est très énervé parce que Édouard ne répond pas à sa question. « Et après, insiste-t-il, qu'est-ce qu'on fait ?» Après, le rire d'Édouard explose pour la deuxième fois, beaucoup plus fort. Après, on se barre avec la caisse.